est arrivé ou s'il est toujours en route. Sinon, c'est pas grave. Je pense que comme dans les beaux vieux temps, n'est-ce pas, chacun a sa Bible avec soi, que ce soit le livre lui-même ou alors peut-être... Mais sinon, vous pouvez écouter la lecture de la parole de Dieu que je vais essayer de faire du mieux possible. Vous savez, il y a dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament des récits très intéressants à propos des rencontres que Jésus a eu avec les gens de son époque. Et il y a un récit dans l'évangile de selon Jean, et ce n'est pas la première fois que je vais méditer avec vous sur ce récit, il est tellement riche. Et donc je l'ai choisi pour ce matin, pour cette occasion de baptême. Un récit qui dit quelque chose qu'ensuite sera largement développé dans le Nouveau Testament, dans les lettres apostoliques, en utilisant d'autres mots, bien sûr, car on peut souvent dire les mêmes choses par d'autres mots, pour parler de la transformation que l'Évangile opère dans la vie de ceux qui l'entendent et qui le reçoivent. Alors, le récit de ce matin, c'est au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, et il s'agit de l'entretien de Jésus avec un certain Nicodème. Et ce récit me fait penser tout de suite, dès que je le lis, à ce fameux passage de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre de Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. » Vous imaginez ? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. On va d'abord lire le texte. On va lire ce passage, donc chapitre 3. Et après, on va tisser quelques considérations à propos de ce qu'il nous dit. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme dont le nom était Nicodème, un chef des Juifs. Celui-ci vint à Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, c'est-à-dire un maître, un enseignant venu de Dieu. » Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit, « Toi, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses ?» Le récit se poursuit, mais nous allons arrêter là ce matin. Voyez, il y a des récits très intéressants comme celui-ci qui nous disent des choses intéressantes sur les personnes, mais aussi sur le message de l'Évangile. Et ce qui nous est dit ici sur cet homme qui s'approche de Jésus, notamment qui il était, le moment qu'il a choisi pour venir à Jésus, lui rendre visite, l'idée qu'il avait de Jésus, mais aussi ce qu'il ignorait, parce que ce n'est pas parce qu'il était maître d'Israël qu'il savait, qu'il connaissait toutes choses, n'est-ce pas? Notamment sur la manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Et aussi les choses fondamentales que Jésus lui apprend ce jour-là, cette nuit-là, ce soir-là. pour lui-même, fondamental pour lui-même, mais à travers lui, fondamental pour nous tous, pour toute l'humanité, l'humanité tout entière. Car quand on arrive au fameux verset 16, un peu plus loin, verset que tous les chrétiens connaissent par cœur, n'est-ce pas ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éterne. Le monde, un message pour le monde. Il faut savoir que Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de Pâques et que la ville était, comme à chaque année, n'est-ce pas, comme d'habitude, pleine de pèlerins venus d'un peu partout et souvent de très loin. On peut penser qu'il y avait des centaines de milliers de pèlerins qui campaient aux alentours de la ville, n'est-ce pas, à l'entrée de la ville, même pour passer la nuit. Et ils étaient là juste pour cette occasion spéciale. On peut imaginer l'émoi, le vacarme, n'est-ce pas, pendant ces jours de fête. Et Jésus, accompagné de ses disciples, y est allé aussi en tant que bon juif, il est allé aussi et il profitait pour enseigner les gens concernant le règne de Dieu. Mais en même temps, nous disent les évangiles, guérir les malades et exorciser ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Et donc, beaucoup de gens étaient émerveillés et croyaient en lui. C'était souvent des gens simples du peuple, comme on dit, n'est-ce pas ? Mais il y avait aussi des gens qui avaient un statut social un peu plus élevé et qui commençaient à s'intéresser à ce message qu'il prêchait. Et on voit que Jésus n'a jamais refoulé qui que ce soit, quelle que soit sa condition sociale, sa couleur de peau ou que sais-je encore. Il a toujours reçu ceux qui sont venus à lui. Il est venu chercher et sauver les perdus, a-t-il affirmé. Sauver et chercher et sauver les perdus. Or, Nicodème était un intellectuel. Le texte nous dit qu'il s'agissait d'un pharisien, c'est-à-dire d'un homme qui faisait partie d'un groupe politico-religieux probablement le plus puissant de l'époque. Qui avait fait vœu donc d'accomplir chaque détail de la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Et on sait que pour eux, la loi était la chose la plus sacrée au monde, n'est-ce pas ? Au point que beaucoup d'entre eux sont tombés dans un légalisme malsain. Un légalisme malsain, un légalisme est toujours malsain, n'est-ce pas ? Dans une sorte de légalisme que Jésus a d'ailleurs condamné. Et non seulement il faisait partie de ce groupe prestigieux, mais encore il était l'un des chefs des Juifs, dit le texte. Cela veut dire qu'il était sans doute membre du tribunal religieux des Juifs, le fameux Sanhédrin, n'est-ce pas ? Et donc il était juge. Et donc il s'agissait d'un homme sûrement avec une certaine maturité, un homme mûr pour faire partie pour avoir ce statut élevé. Sans doute aussi un homme qui était craint et respecté par les gens du peuple. Or, c'est cet homme de la haute société qui vient voir Jésus. Il a remarqué sans doute ce jeune rabbin qui attirait les foules. Il a eu sans doute l'occasion de s'approcher pour écouter ce qu'il disait, ce qu'il enseignait. Et il s'est aperçu que ce jeune rabbin enseignait avec autorité. Et sans doute qu'il a été touché, ou en tout cas intrigué par ce jeune rabbin et son enseignement. Et il a pris l'initiative, la bonne initiative, de chercher à avoir un entretien avec Jésus, à le rencontrer seul à seul. Et le texte nous dit qu'il est venu de nuit voir Jésus. Alors vous savez que cette petite phrase a fait jaser beaucoup de monde, n'est-ce pas ? Certains se demandent la véritable raison de venir la nuit voir Jésus et non pas en plein jour. Bien sûr, plusieurs réponses ont été avancées. Certains pensent que Nicodème n'a pas voulu prendre le risque de s'exposer au regard des autres, notamment au regard de ses pères, n'est-ce pas, en compagnie de Jésus. La crainte, la fameuse crainte du qu'en dira-t-on, n'est-ce pas? Est-ce cela qui l'a conduit à prendre ses précautions? En tout cas, à ce moment-là, peut-être, on ne sait pas, n'est-ce pas? Il ne voulait pas s'attirer des ennuis, donc il vaut mieux d'aller peut-être en cachette, que personne ne me voit. C'est vrai que Jésus affirme au chapitre 12 que parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, je lis, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Hélas, on sait bien qu'aujourd'hui, et depuis toujours, n'est-ce pas, certains ont aussi cette crainte du qu'en dira-t-on, cette crainte de s'afficher en tant que disciple du Christ, de s'afficher en tant que chrétien dans la société. Et à cause de cela, ils ne témoignent pas, ils n'ouvrent pas leur bouche sur leur foi chrétienne, sur leur foi au Christ. Ils mènent une vie médiocre, je dirais même peut-être inutile, n'est-ce pas? À quoi sert le sel s'il n'a pas de la saveur, n'est-ce pas? La lumière, si elle ne brille pas? Ils oublient sans doute ce que Jésus a dit à propos de ceux qui n'osent pas s'afficher de lui. « Celui qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Et ça me fait penser aussi à cette parole de l'apôtre Paul. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Véronique fait partie de ceux qui ont décidé de témoigner ouvertement de sa foi. Elle l'a fait ce matin par le baptême, par son témoignage verbal. Elle le fait dans sa vie de chaque jour. Ceci dit, il y a encore d'autres manières de comprendre la raison de la venue de Nicodème la nuit. Peut-être tout simplement pour pouvoir s'entretenir avec Jésus à l'aise, sans être perturbé par quelqu'un d'autre. Vous savez que Jésus était toujours accompagné par beaucoup de monde. Et la nuit, les gens rentraient chez eux, n'est-ce pas, pour dormir. Aujourd'hui, les lumières sont allumées partout. C'était pas ça à l'époque, n'est-ce pas? La nuit, c'était vraiment pour dormir. Donc les gens rentraient chez eux pour dormir. Et peut-être que Nicodème s'est dit, mais là, c'est vraiment le moment formidable pour avoir un bon entretien avec ce jeune rabbi. D'ailleurs, les rabbins affirmaient à l'époque que le meilleur moment pour étudier la Torah, donc la loi divine, c'était dans le silence de la nuit, quand tout était calme. Peut-être que Nicodème était donc de ceux-là, tout simplement de ceux qui voulaient être au calme avec ce maître, avec cet enseignant, pour essayer de recevoir son enseignement, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire et de comprendre finalement quelle était sa mission sur cette terre et pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Après tout, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il a eu le courage de s'approcher de Jésus, tout simplement. Voilà. Il a eu le courage de le faire. Et que ce soit le jour ou la nuit, il serait bien que les hommes et les femmes de tous les temps aient le courage de s'approcher de Jésus, du Jésus des évangiles, et non pas celui qu'on entend parfois dans la rue, ou non, celui du Nouveau Testament. Or, le malheur, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps, disent-ils, n'est-ce pas, pour se préoccuper de ces choses-là. Un jour plus tard, disent-ils, et ils ne viennent pas voir Jésus, ni le jour ni la nuit. Ils ne savent pas qui sont, quelle est leur situation réelle, qu'ils sont perdus devant Dieu, qu'ils sont morts dans leur péché. Et ils ne savent pas sur quel chemin ils se trouvent. Le chemin de la perdition, nous dit l'Évangile. Parce que sans le Christ, nous sommes perdus pour l'éternité. Nous vivrons éternellement éloignés de Dieu. Il faut absolument qu'ils prennent la décision de s'approcher sauvés. Car la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Je ne sais pas si tout le monde ici est déjà venu au Christ. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, et ce n'est même pas parce qu'on se fait baptiser par immersion ou par aspersion ou je ne sais pas quoi, qu'on appartient au Christ. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose, venir au Christ. Et je ne sais pas quelle est la situation de chacun de vous ce matin. C'est à vous de le savoir et d'examiner ça devant Dieu. Mais si vous n'êtes pas encore venu au Christ, faites-le aujourd'hui. Ne tardez pas, faites-le aujourd'hui. C'est intéressant de voir que dans cet entretien que Nicodème a avec le Christ, Nicodème commence par parler de Jésus à Jésus. Ce qui va conduire Jésus à parler de Nicodème à Nicodème et de lui apprendre des choses que finalement il ne savait pas. Que dit-il à Jésus? Il lui adresse des paroles respectueuses et élogieuses, pleines d'admiration pour ce maître enseignant qu'il ne connaissait pas encore. « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est beau, n'est-ce pas? Il avait une bonne idée du Christ. En fait, ces paroles montrent qu'il était au courant de ce que Jésus faisait un peu partout. Il savait que le peuple le voyait comme un enseignant, n'est-ce pas, comme un maître. Mais on le voit bien partout dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. Jésus ne cherche pas notre admiration. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il ne cherche pas notre admiration. Il attend autre chose de notre part. C'est que nous croyons en lui. Et ça, c'est très clair dans les évangiles et dans la Bible, que nous croyons en lui. Que nous croyons à ce qu'il est venu faire dans ce monde. Que nous lui fassions tout simplement confiance. Admirer Jésus comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui est venu apporter une philosophie de vie très intéressante, et ça on trouve dans la rue des gens qui le disent, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore croire en lui, ce n'est pas encore répondre au message de l'Évangile, à l'invitation de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Plus loin dans ce même Évangile, il est dit, la vie éternelle, c'est le Christ qui le dit dans sa fameuse prière sacerdotale. La vie éternelle, c'est que tous ceux qui viennent à moi, donc à lui, et que le Père lui donne, connaissent le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le salut. N'est-ce pas vrai que beaucoup de nos contemporains pensent de bonnes choses de Jésus? Allez dans la rue, interviewer les gens. Il y aura beaucoup qui vont dire de bonnes choses de ce prophète, de cet homme, de ce philosophe, etc. Des choses, une philosophie intéressante, etc. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Ils ne savent pas qui est le Christ. Ils ne le connaissent pas. Ce que Jésus veut, c'est que nous croyons en lui. C'est qu'en croyant en lui, qui est la vie avec un grand V, nous ayons la vie. C'est lui qui a parlé de la vie abondante, non pas de cette petite vie que les uns et les autres mettent. La vie abondante, la vraie vie, la vie qui a comme résultat la vie éternelle, en compagnie du Dieu éternel pour toujours, pour l'éternité. Sans lui, nous sommes morts et perdus dans nos péchés, nous dit la parole de Dieu. Et nous serons éternellement éloignés de sa présence si nous ne venons pas à lui. Donc, chers amis, ce qui se joue ici-bas sur cette terre est d'une grande importance pour préparer notre avenir éternel, sont une préparation pour la vraie vie. Est-ce que chacun est conscient de cela? Ou est-ce qu'il vit uniquement tourné vers les choses d'ici-bas? Alors que fait Jésus, une fois que Nicodème a fini son éloge, n'est-ce pas, ses paroles élogieuses, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, sans passer par cette nouvelle naissance dont il parle, il est impossible d'accéder au royaume de Dieu, il est impossible d'accéder au salut, pour le dire autrement. Vous savez que cette notion de royaume de Dieu dans la bouche de Jésus a à voir avec l'acceptation de son autorité souveraine sur la vie de chaque être humain et aussi ce qu'elle entraîne par la suite, n'est-ce pas ? Une vie finalement de communion intime avec le Seigneur, une vie d'obéissance à ses commandements, une vie abondante, comme je viens déjà de le dire, une vie qui se prolonge jusque dans l'éternité. Or, pour cela, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, dit-il. Nicodème, malgré toute sa sagesse, il prend au pied de la lettre les paroles du Christ et il ne comprend pas. C'est impossible. C'est impossible. Comment puis-je rentrer dans le ventre de la mère, de ma mère, pour naître? Mais ça, c'est impossible. Moi qui suis vieux. Nicodème, n'étant pas né spirituellement, n'étant pas encore né aux choses spirituelles, ne comprend pas les choses spirituelles. D'ailleurs, l'apôtre Paul affirme dans l'une de ses lettres que l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger, permet d'en comprendre. Il faut donc que l'Esprit de Dieu touche les cœurs des uns et des autres. Et souvent, l'Esprit de Dieu utilise des éléments déclencheurs. Il faut donc un élément déclencheur qui permette à l'Esprit divin de se révéler, de parler à la personne et de la faire comprendre ce qui est de l'ordre du spirituel. Je pense que dans le cas de Nicodème, le déclencheur, c'était d'abord la vie et l'enseignement de Jésus qui l'a touché, qui l'a appris. Apprécier un petit peu. Et c'est aussi ce que Jésus va ajouter dans cet entretien avec lui. En vérité, je te dis, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, né d'eau et d'esprit maintenant, ne peut être entré dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau, donc, c'est naître d'eau et d'esprit, dit le Christ. Encore là, il faut voir qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Pour Nicodème était un peu perdu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Certains ont vu dans l'affirmation « naître d'eau » une référence au baptême chrétien. Mais je pense que rien dans la Bible nous permet d'arriver à cette conclusion, à cette interprétation, car la Bible affirme partout que c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de notre foi, que nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est ça le message de l'Évangile, l'invitation de l'Évangile. Or, si l'on cherche un peu, on remarquera que Jésus s'est présenté notamment à la femme samaritaine comme étant celui qui étanche notre soif et qui l'étanche pour toujours. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Cela veut dire que pour naître de nouveau, finalement, il faut aller au Christ. Il faut recevoir de lui ce qu'il nous offre. Qu'est-ce qu'il nous offre? C'est sa vie. Il nous a offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est cette eau-là qu'il nous offre, cette eau spirituelle. Et il faut aller à lui pour la recevoir. Il faut le recevoir finalement dans notre vie. À une autre occasion, Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dans d'autres passages, on sait que l'eau désigne aussi la parole de Dieu qui était inspirée par Dieu, n'est-ce pas, nous est-il dit. La lettre aux Éphésiens, par exemple, nous parle de l'eau de la parole qui purifie et sanctifie. Et dans ce même évangile, au chapitre 15, Jésus dit à ses disciples qui sont déjà purs, à cause de quoi ? À cause de la parole qu'il leur a annoncée. On pourrait citer d'autres textes, l'apôtre Pierre, qui lui aussi présente la parole de Dieu comme étant le facteur essentiel de la nouvelle naissance. Mais c'est évident, d'où nous vient l'évangile ? Il nous vient de la parole de Dieu. C'est elle la base, n'est-ce pas ? L'apôtre Pierre dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les humains sont comme l'herbe et toute leur gloire comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée, dit l'apôtre Pierre. Enfin, l'apôtre Paul, pour citer un dernier passage, nous rappelle que la foi vient d'où ? Elle vient de ce qu'on entend, de la parole du Christ, tout simplement. En effet, je trouve, frères et sœurs, que la compréhension de ces paroles de Jésus se trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, lorsque Dieu dit par la bouche du prophète, « Je répandrai sur vous, sur eux, une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il me semble clair que l'eau ici est utilisée de manière symbolique, n'est-ce pas, et liée donc à la promesse de cette régénération, de cette nouvelle naissance dont Jésus parle ici. On sait bien que l'eau utilisée dans les purifications rituelles chez les Juifs était le signe donc c'était le sceau de la repentance. Rappelez-vous le baptême Jean-Baptiste. Repentez-vous d'abord, n'est-ce pas ? Et après, vous pouvez vous faire baptiser. Donc, le sceau de la repentance, de la douleur causée par le péché. Il y a donc dans cette affirmation de Jésus, naître d'eau, le symbole d'une repentance préalable. Repentance qui est le fruit de la prédication de la parole de Dieu, de l'annonce de l'Évangile, tout simplement. En affirmant enfin naître d'esprit, c'est naître aux choses spirituelles, naître spirituellement. La nouvelle naissance est une naissance qui n'est pas physique, car elle appartient au domaine spirituel. C'est le cœur et l'esprit nouveau dont nous parle le prophète. C'est un cœur de chair que Dieu met à la place de ce cœur de pierre que nous avons, n'est-ce pas ? Naître d'esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu entrer dans notre vie et agir en nous continuellement. En mot, naître d'esprit, c'est finalement ouvrir son cœur, son esprit, son cœur, sa vie à l'Esprit de Dieu, lui donner la place principale dans sa vie pour qu'il prenne possession d'elle et la transforme de comble en comble. Finalement, ce que Jésus nous dit ici, à Nicodème et à chacun de nous, c'est qu'il nous faut, par l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute de l'Évangile, passer par la repentance et la conversion pour être sauvé et devenir cette nouvelle créature qu'il veut que nous soyons chacun de nous, façonnés par la puissance de l'Évangile en nous. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Nicodème. Après, il n'a plus eu peur de se cacher. On pourrait voir ce qu'il a fait après, n'est-ce pas, notamment lorsqu'il a défendu Jésus devant les pharisiens, les autres pharisiens, n'est-ce pas, qui voulaient le condamner même sans l'avoir entendu. Ou alors, lors de la crucifixion avec Joseph d'Arimathée, n'est-ce pas, il s'est occupé du corps de Jésus. Jésus a été enterré dans un tombeau tout neuf, n'est-ce pas? Es-tu né de nouveau? Es-tu passé par cette naissance, nouvelle naissance, cette naissance d'eau et d'esprit? Veux-tu venir aujourd'hui à Jésus, toi aussi? Nicodème, Pierre, Lucie, Nathalie, il faut naître de nouveau. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Je vous invite à prendre quelques instants dans la prière. Après quoi, nous prendrons un temps particulier pour prier pour Véronique.